16h03, nous sommes lundi 8 mars. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est un ciel dégagé, pas très chaud ce matin, c'est autour de moins 10, moins 12 degrés. La bonne nouvelle, c'est que la présence du soleil va amener de la chaleur, et le maximum aujourd'hui, autour de moins 3 degrés. Ça se couvre à nouveau en soirée, faible risque de neige au cours de la nuit, pas d'accumulation, avec un minimum de moins 5. Et pour demain, mardi, on prévoit un dégagement le matin, du soleil par la suite, 7 degrés, je rappelle, les gens insistent, là, plus 7 degrés. Mercredi, c'est ensoleillé, 8 degrés. Il y a de la pluie qui est prévue pour jeudi, de la pluie intermittente, toujours 8 degrés. Puis vendredi, 8 degrés. Donc, des températures là, très, très confortables pour toute la semaine, avec un peu de pluie pour terminer. Et quand on regarde la moyenne, c'est autour de zéro habituellement. Puis là, on est dans le 7 à 8 degrés. Bien, c'est la journée des droits des femmes aujourd'hui. Il y a des reportages partout sur la place qu'occupent les femmes, par exemple, dans l'univers économique, sur les questions d'inégalité, sur les questions de violence. On vient de parler de ces deux pauvres femmes assassinées dans les Laurentides, 5 en un mois au Québec. Et je voudrais attirer votre attention ce matin sur certains éléments de réflexion. Je regarde dans Le Devoir où on nous parle du réseau d'hébergement d'aide aux femmes victimes de violences. Et souvent, on le dit, il y a le discours puis il y a la pratique. La pandémie, le confinement ont évidemment créé, depuis le temps que ça dure, des occasions de proximité forcée et un peu trop longue aux yeux de certains. Et donc, des relations tendues au sein de couples pour qui, parfois, ça allait déjà pas si bien. Et la pandémie vient amplifier ça. Donc, les responsables de ces centres d'hébergement, ces maisons pour femmes, disent que la demande pour les services externes, là, des femmes qui ont besoin d'aide, a explosé et que le financement, malheureusement, n'a pas suivi. Il manque de place pour des femmes qui cherchent un hébergement. Il manque d'intervenants pour les aider. Et d'après leurs estimés, donc, les services externes ont été multipliés par 10 depuis le début de la pandémie. Et ça, c'est vraiment une réalité quand même. Il n'y a pas une journée, je vous le dis, il n'y a pas de gens qui m'écrivent là, pour me faire des témoignages sur l'importance, et encore la semaine dernière, on en a parlé, de planifier la sortie quand on veut quitter un conjoint violent. Pourquoi ne pas le faire sur un coup de tête? C'est que c'est trop risqué, trop dangereux, et on ne sait pas où aller cogner. C'est important de préparer la façon de quitter et l'endroit où on veut aller pour être en sécurité. Donc, vous pouvez lire ça ce matin dans Le Devoir, et vous avez des entrevues avec des femmes qui ont réussi, par exemple, en affaires. Parmi nos invités ce matin, on va parler un petit peu plus tard avec Juliette Brun, qui a créé, fondé Juliette et Chocolat, mère de 4 enfants, qui est entrepreneur, qui a une vision et qui va témoigner aussi donc à l'antenne ce matin. Et nos collègues Monique Néron et Émilie Perrault seront avec nous pour parler de leur film, qui est également très attendu. La date n'est pas connue encore, mais c'est La parfaite victime. Je l'ai vu. Et c'est un regard sur le système de justice qui arrive à point avec les deux jugements dans l'affaire Roson et dans l'affaire Salvaille concernant le doute raisonnable. Qu'est-ce que c'est que le doute raisonnable? Ça veut dire quoi? On en a beaucoup parlé lors de ces deux procès. Mais c'est intéressant de voir ça dans le contexte du film. Et il y a une réflexion à faire pour les politiciens, politiciennes. Il y a une réflexion à faire aussi, je pense, pour l'ensemble de la société. Quand on met en contradiction les propos d'une victime entre ce qu'elle a dit d'abord en portant plainte, ce qu'elle a peut-être ajouté aux enquêteurs, et ce qu'elle va dire en cours quand elle sera interrogée et contre-interrogée, il y a parfois, comment dirais-je, une forme, je n'ai pas le mot, mais je comprends le malaise des victimes. Quand une femme dit, moi là, je suis en train de me faire agresser, je ne suis pas en train de regarder la couleur du mur de la pièce où ça s'est passé. Et habituellement, il n'y en a pas de témoins, ou c'est exceptionnel. Et comment les femmes, c'est mieux que c'était là, Puis l'idée, c'est pas de décourager des femmes de porter plainte, mais l'accueil, l'accompagnement dans un système comme celui-là. Puis combien de femmes se font dire « on vous croit », on sait que vous n'inventez pas l'histoire, mais malheureusement, pour X raisons, on décide de ne pas accuser. Et ça arrive comme ça tous les jours. Alors, Monique et Émilie seront avec nous pour parler de ça ce matin. En parallèle, je ne sais pas, avez-vous aux États-Unis, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui se débat des pressions de plus en plus fortes pour qu'il quitte en raison de ses inconduites sexuelles qui sont variées, là. Ça va de remarques désobligeantes à des remarques insistantes, une forme d'avance. Il a d'abord dit que, bon, il s'excusait si des gens avaient été mal à l'aise quand il disait, par exemple, « Est-ce que tu as un copain? » Il disait ça à une jeune assistante. « Est-ce que tu as déjà eu des relations intimes avec un homme plus âgé, comme moi? Est-ce que dans ta vie, tu as des fantasmes? » Tu sais, le genre de conversation assez particulière. Et là, il a dit, « Bon, ben je suis comme ça, puis c'est ma façon à moi de parler puis d'entrer en contact avec les gens. » Ça a passé un peu, un, deux, puis là, on est rendu avec cinq femmes qui témoignent de différents comportements. Et là, il y a de plus en plus de pression pour qu'il quitte ce qu'il refuse de faire. Il dit, j'ai été élu non pas par des politiciens, mais par les citoyens. Alors, il a l'intention de s'accrocher, du moins pour l'instant. Parlons maintenant de la fin de la relâche scolaire. Dans plusieurs régions du Québec, on passe en mode orange, mais pour ce qui est du Grand Montréal, vous le savez, c'est toujours en rouge. Donc, Québec, l'Estrie, par exemple, c'est la relâche qui se termine, puis en même temps, donc, des restos qui ouvrent avec des conditions, puis des gyms qui vont ouvrir avec des conditions. Il n'y a pas de cours de groupe. Il y a des espaces comme ça qui sont réservés. Et si je parle de la fin de la relâche, c'est évidemment, aux yeux de la santé publique, une période qui amène son lot d'interrogations. Avec la présence des variants, je regardais, c'est dans Portneuf, il y a une école qui on suspecte des cas de COVID à cause d'un variant. Il semble que l'école va rester ouverte. Mais les deux prochaines semaines vont être assez déterminantes. Comment se sont comportés les Québécois? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup, des cas comme à Stoneham, des parties à 30, puis à Mascouche, ou des parties plus restreintes, mais où les gens, donc, se sont rassemblés? Puis ça va être quoi l'effet dans les écoles? Alors ça, c'est la question numéro un. La question numéro deux, c'est qu'avec la vaccination, disent les experts, puis là, la cadence n'est pas maximale, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir la COVID, mais en même temps, les symptômes vont être moins graves, il y aura une pression moins forte sur le réseau de la santé. Et le retour en classe, je comprends là, qu'il y a des journées pédagogiques, mais je veux dire une chose, il y a beaucoup de parents qui se posent des questions. Bon, il y a le port du masque obligatoire, il y a des parents qui sont contre, on sait qu'il y a un mouvement là, qui est assez organisé, puis il y a des parents qui disent qu'ils vont garder leur enfant à la maison, puis en même temps, donc, les cours reprennent. Et ça vaut pour tous les enfants du primaire, là, en zone rouge, sauf pour, évidemment, maternelle, pré-maternelle. Mais la question de l'évaluation, c'est fichement important. Parce que là, on se retrouve avec un bulletin premier qui vaut 35 % de la note finale, puis le deuxième qui va peser pour la balance. Ce qui est quand même beaucoup. Et il y a des enfants qui ont beaucoup de difficultés à s'ajuster, à s'adapter à cette période de télé-enseignement, puis d'aller à l'école un peu, par exemple, au secondaire, là, tu sais, l'espèce de rotation. Il y en a pour qui c'est compliqué. Il y a des classes qui ferment pendant un certain temps. C'est pas une année normale. Alors, il y a des profs qui ont fait l'objet de pressions de centres scolaires, on peut lire ça dans la presse ce matin, pour qu'il n'y ait pas d'échec. Puis là, le ministère est intervenu en rappelant que ce sont les enseignants qui fournissent les résultats scolaires et que ce n'est pas à l'école de décider comment ça va se passer. Mais là, on fait quoi avec ces enfants-là qui, clairement, parce qu'ils ont commencé l'année en mode rattrapage, ça a été plus long, plus complexe dans beaucoup de cas et qui ne verront pas tout le programme. Est-ce qu'on envoie tout le monde de deuxième année en troisième, de troisième en quatrième, de secondaire 2 à secondaire 3. Comment ça va se passer? Les fameux tuteurs, est-ce qu'il y a des camps pédagogiques de prévu? Donc, disons qu'il y a beaucoup de questions qui concernent, si on veut, tout le volet pédagogique avec le mois de mars qui est donc officiellement lancé, puis l'espèce de course ou marathon, si vous préférez, vers la fin de l'année scolaire. Il y a tout le volet sport aussi qui est intéressant. Il y a également les journées parascolaires, les activités parascolaires. On pourra en parler avec le ministre de l'Éducation tantôt, Jean-François Roberge, qui sera notre invité. Mais la presse nous dit entre autres ce matin que Québec pense, je dis bien pense, à rouvrir les gyms en zone rouge pour les bulles familiales. Donc, pas de cours, là, comme on a dans les zones orange actuellement, mais ça voudrait dire que vous pourriez aller à votre gym puis vous entraîner en solo ou avec votre conjointe, par exemple, ou un de vos enfants. Mais il n'y aurait pas ces fameux cours de groupe, ce qui ne fait pas l'affaire de beaucoup de propriétaires de gym, mais bon. Alors, ça, c'est une des options. Et on pourrait permettre, en zone orange, semble-t-il, un retour encadré, limité, de sport organisé. Il y a eu cette manif à Québec qui a attiré quand même pas mal de monde en fin de semaine. Donc, théoriquement, cette semaine-là, on devra avoir le détail du retour vers les activités sportives. Et on sait que la date, en tout cas pour le parascolaire, c'est le 15 mars, mais là, ça vise les écoles. Là, je vous parle à l'extérieur des écoles. Et il y a quelque chose qui me frappe beaucoup quand je regarde les différents messages que je reçois. On parle pas trop de la COVID ce matin. On en parle en masse, là. Mais l'opération vaccination continue. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « M. Arcan, ça a super bien été. On s'est présenté au Palais des congrès, les gens étaient de bonne humeur, les gens... Bon. » Beaucoup de témoignages en ce sens-là, puis pas juste au Palais des congrès. Puis vous avez ceux qui sont pas contents. Il y a des gens qui m'ont écrit, il y a un problème d'adresse, je pense, sur la Rive-Nord, là, où il y a eu la confusion sur où était le centre de vaccination. Bon. Certains me parlent un peu de désorganisation, exemple au stade. Il y a même quelqu'un qui se plaint que la machine à café ne marchait pas. T'sais, ce que je veux dire par là, c'est que je comprends que tout n'est pas parfait, qu'on n'a pas le volume de vaccins souhaité, mais en gros, on peut dire qu'après des ratés logistiques au point de départ, la machine de vaccination semble rouler assez bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des accrochages ici et là. Le deuxième point, c'est quand le volume va augmenter, les pharmaciens vont entrer également dans le processus, bien, plus on va vacciner de gens, plus les effets, je dirais, les pires effets de la COVID vont commencer à s'atténuer. Puis je pense que c'est ça l'objectif. On a vu l'éclosion dans ce centre, là. Puis on se dit, mais pourquoi les gens ont été vaccinés? Ça a l'air qu'il y a juste 40% du personnel qui l'ont été. Mais quand même, les effets semblent moins graves. Puis là, j'ai des propriétaires de gym qui se plaignent, qui me disent, bien là, on ne peut pas donner des cours de groupe. Et des propriétaires de restaurants, je voyais ça dans la presse ce matin, à Bromont, qui disent, ouais, mais on a bien des clients, parce que Bromont est en zone orange, là, comme Granby. On a bien des clients qui viennent de Montréal. Puis qu'est-ce qu'on fait, là? Tu as droit à deux adultes, leurs enfants, mais quand les enfants ont dit... Là, je comprends qu'on peut gosser puis se trouver toutes les raisons au monde, là. Puis qu'on demande à des restaurateurs de jouer un peu beaucoup à la police. Mais là, au moins, vous avez la possibilité d'ouvrir. Puis le beau temps va arriver, puis on le voit, là, les jours de chaleur sont pas si loin. Puis on a tous hâte de pouvoir, comme ça, se retrouver, donc, sur les terrasses. Et puis, ben, vous avez vu ces cas de rassemblements illégaux en fin de semaine, 35 là, 30 là, des amendes totales de quasiment 60 000 $ pour un endroit, comme, tu sais, des gens, là, qui... Il n'y a rien à faire avec ce monde-là, là, qui n'ont qu'une priorité dans la vie, c'est leurs petits besoins, puis leur petite gang, puis leur petite fête. On ne sait pas quel était le prétexte. Puis en parallèle, ben, des gens qui misent beaucoup sur l'été qui s'en vient, sur la location de chalets pour l'été. Et ça, je pense que c'est important quand même de le mentionner. Pour les amants, je dirais, de la culture, du jardin, il faut déjà y penser. C'est pour ça qu'on a trouvé que c'était une bonne idée d'inviter Bertrand Dumont à nous parler ce matin des semis, puis les centres de jardinage qui sont pris d'assaut. Puis c'est clair qu'on le sait qu'on ne pourra pas trop s'éloigner durant l'été, qu'on ne pourra pas partir comme on rêve de le faire, mais qu'il faut trouver des activités puis s'aménager des choses. Puis on voit que les gens, quand même, ont l'intention, même s'ils l'ont fait beaucoup le printemps dernier, de continuer à investir dans leur environnement. Bon, dans les autres nouvelles, à suivre le procès qui commence. Ça commence avec la sélection des membres du jury au procès de Derek Chauvin, ce policier qui est accusé d'avoir tué George Floyd le 25 mai 2020. On se souvient de ce qui s'est passé. Une interpellation, arrestation qui tourne mal et ça dure. On a tous en mémoire les images, presque 9 minutes, où Floyd est au plancher immobilisé, le policier a le genou et 20 fois, il répète qu'il ne peut pas respirer. Et il est décédé une heure plus tard à l'hôpital. C'est la sélection des membres du jury. Et là-bas, la façon dont ça se passe au Minnesota, ils envoient un questionnaire à des jurés potentiels, 14 pages. Est-ce que vous avez vu les images? Avez-vous entendu parler de l'affaire? C'est sûr que quelqu'un qui a dit « j'ai pas entendu parler de ça », là, il est comme sur une autre planète. Il ne fera pas un bon juré. Et donc, ces gens-là ont été présélectionnés et le procès va s'amorcer. Il y a eu des manifestations hier sur la violence à l'égard des Noirs, mais pas que sur le cas de Floyd, mais sur d'autres cas. Puis on sait que les policiers qui l'accompagnaient vont faire face aussi à une série d'accusations. Et également, hier, l'entrevue de Meghan et de Harry avec Oprah Winfrey, c'était une entrevue, disons, assez percutante, là. Et je vais en parler dans deux instants avec Catherine, là. Mais quand Meghan dit, dans l'attente de notre premier enfant, Archie, quelqu'un, on ne sait pas qui, au sein de l'univers royal, se serait dit inquiet de la peau éventuellement un peu trop foncée de l'enfant à naître. On va dire, Meghan est une métisse, alors est-ce qu'on va se retrouver avec un bébé un peu trop brun aux yeux de la couronne? Et c'est pas la reine qui a dit ça, mais on sait pas qui a dit ça. Puis là, on sent toutes les tensions. Pas de contact avec le prince Charles. La reine semble garder quand même un certain nombre de liens avec son petit-fils. Mais en gros, ce qu'ils nous ont dit hier, les deux, particulièrement Meghan qui a pensé à mettre fin à sa vie en disant que c'était insupportable, que c'était une prison, et que ce sont des gens étouffants, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de couper les contacts, puis d'aller s'établir comme ça en Californie. Donc, on vous en parle dans quelques instants avec Catherine. Et ça fait pas mal le tour de nos manchettes ce matin. Juste vous dire, il y a une pub dans les journaux qui interpelle le docteur Carman pour sauver, je cite, « les patients schizophrènes résistants ». C'est assez rare qu'on voit ce genre de pub signé par des psychiatres. Ils doivent quoi être une dizaine à peu près là, qui signent ça. Et qui demande au ministre Dubé de redonner au psychiatre la liberté de choisir un traitement à la clozapine et le programme de soutien qu'il juge adapté pour leurs patients. Les psychiatres devraient pouvoir choisir les traitements de leurs patients, pas le ministre de la Santé. Et c'est toute la question du remboursement de ce médicament. Et donc, nous demandons qu'en vertu, et je cite, de la nature exceptionnelle de la clozapine et de l'impact sur la santé des patients, que la clozapine bénéficie d'une exception à l'interdiction de remboursement partiel du prix du médicament par le fabricant pour des raisons humanitaires, cliniques et sociales. Donc, c'est tout l'enjeu de la facture des médicaments. Puis là, je vois ça ce matin, j'ai l'impression que la compagnie pharmaceutique n'est pas bien ben loin aussi, ou les compagnies, parce que je pense pas que dans la presse, puis dans le Journal de Montréal, les psychiatres aient payé ça de leur poche. Ça serait étonnant. 6h22. Le pont Champlain, monsieur.